Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Et on veut lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18.
Ésaïe 43, verset 18.
Quelque chose qui est vraiment sur mon cœur. Et qui est pour l'Église. Je sais pas pourquoi j'ai ça maintenant sur le cœur. J'avais le goût de le dire, de l'enseigner à partir du mois de septembre où tout le monde serait là. Mais vous savez, quand on est poussé comme ça, on ne peut pas s'empêcher. Bah, c'est comme ça ce matin et je crois que c'est pour vous ce matin, c'est pour nous. Et j'aimerais pendant 2-3 messages vous parler d'une vision pour un changement. On va parler de la vision. On va parler des rêves. Et comment voir ces rêves s'accomplir? Comment voir le changement? Comment voir un changement? Et Ésaïe chapitre 43 verset 18 nous dit, alors moi j'ai la version parole de vie qui nous dit: maintenant le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà, et une autre version dit qui est sur le point d'arriver. Une autre version dit qui est déjà en route. Est-ce que vous ne le voyez pas? D'autres versions disent: ne le désirez-vous pas? Est-ce que vous ne le désirez pas? Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Le Seigneur est en train de parler à vos cœurs ce matin. Et il veut vous dire, il y a quelque chose qui est en route, qui est sur le point d'arriver. Mais pour voir cette chose s'accomplir, la première chose, il faut oublier le passé. Et il faut la désirer, il faut la voir. Et quand on va faire ça, on va voir un chemin dans le désert. On veut voir dans notre cœur sec quelque chose, on va voir des fleuves d'eau vive qui vont couler. Et c'est la pensée, c'est cette vision que j'aimerais déposer sur votre cœur. Alors, en laissant nos Bibles, j'aimerais que nous puissions prier en introduction à cette parole. Et que nous puissions prier le Seigneur: oui, Seigneur, fais-le pour moi. Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Et que des fleuves d'eau vive coulent en moi. Alléluia. Seigneur, je viens à tes pieds, Seigneur, humblement te demandant, Seigneur, de m'aider à partager ce que tu as mis sur mon cœur. Et Seigneur, je veux te demander, Seigneur, également de bénir chacune des vies, chacun des hommes, des femmes, Seigneur, des jeunes, des enfants qui sont là. Et Seigneur, à eux aussi, Seigneur, tu veux leur parler. Merci pour le miracle. Merci pour ce que tu vas faire ce matin. Et je le vois par la foi, et je le sais, Seigneur, que tu béniras chacune des vies, et chacun de ceux qui entendront ce message. Seigneur, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Je te prie. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Dans la parole de Dieu, vous ne verrez à aucun moment une espèce de satisfaction ou un certain contentement pour le chrétien. Vous ne verrez jamais que Dieu a pour ses enfants le plan d'une position où finalement cet enfant-là ne grandit plus. Il n'y a dans le plan de Dieu aucun plan, aucune pensée pour que tu arrives à une certaine spiritualité dans ta vie et puis finalement maintenant t'arrêtes là. C'est tout le contraire. On va développer ça dans les semaines suivantes. Mais la Bible nous parle toujours de croître. de tendre à la perfection, de grandir, de plus être un enfant mais de devenir adulte. Et voyez-vous, il y a toujours cette pensée de grandir, de progresser. Pas parce que nous sommes éternellement mauvais, mais c'est parce que nous sommes, quand nous devenons chrétiens, nous entrons dans un processus de sanctification. Nous entrons dans une vie où nous voulons ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et bien sûr, nous voulons ressembler à Jésus-Christ, mais nous ne voulons pas être comme Jésus-Christ quand il dit: je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne veut pas être les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement pareil. Lui qui est saint, lui qui est Dieu, lui ne change pas. Amen. Lui n'est pas appelé à grandir ou à progresser. Mais lui qui est saint nous appelle à devenir saint. 1 Pierre 1:15 nous dit: puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez
saints.
Romains chapitre 12 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc il y a dans la pensée de Dieu vraiment cette pensée que nous devons continuellement changer. Nous devons vivre une transformation dans notre vie. Et dans la vie du croyant, il doit y avoir ce désir de vision, de croissance. Pour notre propre vie et puis pour la vie de l'Église. Chacun doit être animé d'un nouveau zèle. Chacun doit être animé jour après jour de désirs plus grands. De rêves nouveaux. Voilà pourquoi, en tant que pasteur, moi je me réjouis de tous les programmes que nous avons dans l'Église. Et je crois que ces programmes ne sont pas les programmes éternels. Je ne crois pas que, par exemple, le programme Gospel City, c'est un programme qui est scellé dans le béton pour l'éternité. Il doit y avoir dans l'Église toujours une dynamique de nouveaux programmes, de nouvelles choses. De nouvelles idées. Et des moments où on arrête ça puis on recommence autre chose. Pas parce que c'est un échec, mais parce que on ne veut pas rentrer dans des rituels ou dans une tradition. Et on veut vivre des choses nouvelles. On veut voir de nouvelles choses. Et c'est mon cœur, c'est mon désir pour l'Église. C'est de voir de nouveaux changements. De nouvelles personnes qui se donnent à Jésus-Christ. De voir des nouvelles familles rebâties. De voir des couples heureux. De voir des jeunes qui vivaient une vie médiocre dans le monde venir au pied de Jésus-Christ. Je veux voir des familles totalement épanouies. Je veux voir des jeunes pleins de feu. Je veux voir nos anciens et nos piliers de l'Église réjouis de ce qu'ils voient dans l'Église. Allez, dites Amen avant que j'explose ce matin. Amen. On veut voir ces choses-là dans l'Église. Le Seigneur est en train de nous dire: hey, moi le Seigneur, j'ai quelque chose pour vous. Mais ne pensez plus à ce qui est ancien. Oubliez le passé. Oubliez le passé. Ne pensez plus à ce qui est arrivé. Parce que moi, je vais faire quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Et cette chose, elle est en train de grandir. Et Dieu parle à son Église là, et il vous dit: ne la voyez-vous pas? Est-ce que vous ne considérez pas ce qui est en train de se passer dans cette ville de
Troyes?
De ce qui est en train de se passer dans votre vie? Alors c'est le moment d'oublier le passé. C'est le moment de laisser ce qui vous a blessé, ce qui vous a détruit en arrière, et de regarder vers l'avant. Mercredi, nous avons parlé de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui avait été mis en prison injustement. Et ça fait 2 ans qu'il est là en train de croupir dans sa prison. C'était pas de sa faute qu'il était là. Il avait rien fait pour ça. Et dans sa vie, il avait été frappé. Il avait été lapidé. Il avait été naufragé. Il avait été jugé par ses propres frères. Il avait été blessé par ses propres frères. La Bible nous dit qu'il était triste même. Et il était content qu'Épaphrodite soit guéri parce que sinon ça aurait mis de la tristesse sur la tristesse. Mais il n'est pas resté là-dessus. Il n'est pas resté sur cette position de blessé, de découragé, de triste. Il a dit, moi je fais une chose. Amen, vous souvenez, montrez votre doigt, une chose. Amen, je laisse ce qui était en arrière. J'oublie ce qui est en arrière. Et je me porte vers ce qui est en avant. Alléluia. Et c'est la clé ce matin pour voir des choses nouvelles. Si vous êtes toujours dans le passé, si vous êtes toujours en train de repenser aux choses du passé, en train de revivre ce qui vous a fait mal, vous ne pourrez jamais entrer dans des choses nouvelles. Amen. Moi je fais une chose, c'est que j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Le défi ici, c'est il ne vient pas de Dieu, le défi vient de nous. Le problème pour voir un changement dans notre vie, dans nos pensées, n'est jamais avec Dieu. Dieu dit, moi j'ai quelque chose de nouveau. Est-ce que vous ne le voyez pas là? Est-ce que vous ne le désirez pas? En fait, la question, elle est dans notre côté. Pour voir un changement, pour voir quelque chose de nouveau, ça dépend de nous. Le défi, c'est est-ce que cette promesse-là va rencontrer quelqu'un qui veut voir? Le défi de cette promesse, c'est que est-ce que ça va rencontrer un peuple qui a un désir de voir vraiment le changement? Le défi de cette parole, c'est est-ce que cette parole va trouver quelqu'un avec un cœur affamé de voir cette chose réalisée dans sa vie? Beaucoup de gens vivent comme cette église de Laodicée qui dit, oh, moi, c'est bon, j'ai besoin de rien d'autre. Et le problème, c'est qu'avec cette église de Laodicée, cette église-là, elle est rejetée par le Seigneur. Le Seigneur dit, si tu dis que tu as besoin de rien, ben moi, je vais te vomir de ma bouche. Cette promesse ce matin doit rencontrer un peuple, des hommes et des femmes qui disent « Oui, moi je veux rentrer dans cette promesse et je veux vivre un changement. » La clé de ce changement, c'est le désir, c'est la vision, c'est de voir quelque chose de nouveau. Et j'espère que vous êtes ici ce matin avec ce cœur assoiffé de voir quelque chose de nouveau dans votre vie. De voir de nouveaux changements. Des changements certainement progressifs. Ou peut-être radicaux. Mais de voir un changement. Dans le corps de Christ, il n'y a personne qui n'a reçu un appel de spectateur de la chose nouvelle.
Personne ne reçoit un appel d'observateur ou de bénéficiaire ou d'évaluateur de la chose nouvelle.
Personne n'est appelé à juger la chose nouvelle ou de questionner ou de bouder les choses nouvelles. Mais chaque personne est invitée par la parole de Dieu
à
devenir une part entière de cette chose nouvelle. Par la prière, par l'intercession,
par l'évangélisation,
par
un cœur et qui dit, moi, Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau dans ma vie. Et je sais qu'on est en période de solde,
mais
dites à votre voisin, j'ai besoin d'une chose nouvelle. Les femmes, dites à votre époux, j'ai besoin d'une chose nouvelle. On veut voir un changement. Et donc cette première clé, nous l'avons vue, c'est d'oublier le passé. C'est de décider. Et moi, je prie que ce soit que aujourd'hui cette réunion soit peut-être pour vous comme une pierre là, comme un pivot entre ce qui s'est passé et ce que vous allez vivre maintenant. Cette réunion peut être pour vous le déclenchement d'une vie nouvelle, d'un changement dans votre vie. Mais ça doit être premièrement un changement dans vos pensées. Et là, on va rentrer, et ce matin, je n'aurai peut-être pas le temps de tout développer, mais nous allons parler du premier miracle de Jésus-Christ. La vision pour un changement commence par l'expérience du premier miracle. Ce que vous allez entendre ce matin, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. Et je veux vraiment d'être attentif. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jean chapitre 2, verset
1er.
Et on veut lire à cet endroit ce qu'il s'est passé. C'est le début du ministère de Jésus. Il nous est dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et je veux répéter ici ce verset. Il est dit, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Moi, jusqu'à cette semaine, je n'avais jamais vu ça dans la Bible.
J'avais jamais
remarqué que les vases que Jésus a utilisés étaient destinés à la purification des Juifs. Et verset 7, il nous a dit, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'à bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté, l'eau changeait en vin. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau ne le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Amen. C'est ici, ce texte-là, c'est la première fois dans les évangiles où il nous est dit que les disciples ont cru en Jésus. C'est la première fois qu'ils ont cru en Jésus. Et ce miracle, c'est le premier miracle qu'a fait Jésus-Christ. Et vous savez, le mot miracle en grec, il est traduit souvent. Et à cet endroit-là, en particulier, et il est aussi traduit quand il est dit que voici, je vous enverrai un signe, un miracle, c'est le mot Simeon. Le mot en grec, c'est le mot Simeon.
Simeon Barna.
Et Simeon, c'est un signe. Et vous savez ce que c'est un signe? Vous savez ce que c'est un panneau signalétique? C'est un signe, ça vous montre une direction. Quand vous voyez un poisson derrière une voiture, vous savez que c'est un signe, ça.
Dire que là, quelque part, quelqu'un dans la voiture, il y a quelqu'un qui croit en Dieu. Voilà. Et c'est un signe. Et là, il nous est dit que il y avait là un signe. Tel fut en Galilée le premier des signes que fit Jésus. Et remarquez que ce signe-là, ce miracle-là, ce qu'a fait Jésus-Christ, ça n'est pas simplement de changer l'eau en vin. Il y a quelque chose de sous-jacent à ce que Jésus-Christ a fait. Il y a quelque chose de plus grand que simplement changer de l'eau en vin. Parce que ce que Jésus-Christ a fait, ce miracle pour les hommes, est en fait un signe spirituel pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle, lorsque on est venu voir Jésus-Christ, en lui disant qu'il n'y avait plus de vin, et vous savez que le vin représente le fruit de la vigne. Et ce fruit de la vigne, c'est ce que nous prenons quand nous commémorons la Sainte Cène. Nous prenons la coupe qui représente le sang du Seigneur Jésus-Christ. On boit pas le sang, on boit du fruit de la vigne qui représente le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand on est venu voir Jésus en disant, hé, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de fruits de la vigne. La première chose que Jésus dit, il dit pas, oh, c'est dommage parce que j'avais soif. Non, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Il fait de suite les premières paroles que Jésus prononce au début de son ministère. Ces paroles parlent déjà de la croix. Et le miracle que Jésus-Christ va opérer est un signe qui nous parle de la croix. Et pour comprendre parfaitement ce que Jésus veut nous enseigner ce matin, il est important de comprendre ce qui se passe avant et ce qui se passe après ce texte. Et c'est très important ça, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez un verset, ne faites pas une doctrine sur un verset. Lisez ce qui est avant, lisez ce qui est après, et là vous allez comprendre. Parce que un texte sorti du contexte devient souvent un prétexte. On dit, tu vois, c'est écrit.
Ouais,
mais regarde le contexte. Et donc, ce qui se passe avant ce signe-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus-Christ appelle ses disciples par leur nom. Là, il va y avoir un changement là, puissant. Mais avant ce changement, Jésus-Christ appelle ses disciples par leur nom.
Et
vous lisez le chapitre précédent, vous voyez ça, c'est évident. Vous voyez ça même dans les autres évangiles, les disciples sont appelés par leur nom. Pierre, Jacques, Jean, André.
Et Jésus
les appelle et leur dit, hey, toi, suis-moi. Et la vision pour un changement commence par moi-même. C'est l'appel pour un changement dans notre vie commence par un oui à l'appel de Jésus-Christ tous les jours de ma vie. Si je veux voir des choses nouvelles, c'est pas simplement le oui que j'ai donné le jour où je suis passé par les eaux du baptême. Mais c'est un oui quotidien, c'est un oui à chaque jour pour un nouveau changement. Pour une nouvelle croissance. Et ce qui se passe, et donc les disciples ont répondu à l'appel. Et parce qu'ils ont répondu à l'appel, ils ont vu quelque chose de nouveau. Ils ont connu Jésus-Christ, celui qui les appelait.
Celui qui a dit, toi suis-moi, mais à partir du miracle, ils le connaissent comme le Messie. Comme le Dieu puissant manifesté en chair. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à croire en lui. Ils n'ont pas cru en lui avant.
Mais
ils ont d'abord dit oui. Ils l'ont suivi. Ils ont vu. Ils ont cru. Et c'est la démarche pour un changement. Et maintenant, quand on regarde le contexte, il faut regarder aussi ce qui se passe après les noces de Cana. Juste après ce texte-là, vous voyez que Jésus-Christ rentre dans le temple et puis il renverse les tables.
Et
il rentre dans le temple de Dieu et il voit là du commerce. Et Jésus est excédé par cette vision parce qu'il dit, cette maison sera appelée une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus renverse les tables. Il y a, dans ce contexte-là, il faut que vous compreniez bien que Jésus-Christ veut voir et il est venu pour apporter un jour nouveau. Le désir de Dieu, c'est d'apporter une vie nouvelle. Le désir de Dieu, c'est de changer le rituel en quelque chose de vrai. Dieu n'en a que faire des personnes qui pratiquent une religion. Dieu n'est pas intéressé par des gens qui pratiquent une religion. Mais la réponse pour un changement rencontre des gens qui veulent vivre une expérience et pas un rituel. Voilà pourquoi lorsque Jésus rentre dans le temple, il voit ces pharisiens là. Il voit tout ce commerce.
Et
ce qui se passe là dans cette église, c'est pas la vocation de cette église. La vocation de l'église, c'est pas de faire du commerce. La vocation de l'église, c'est de répondre aux besoins des gens. La vocation de l'église, c'est de répondre aux besoins des gens. Et ce besoin est rencontré avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui opère ce changement. Et lui vient avec cette pensée que je vais changer ce qui était en eau, je vais le changer en vin. Je vais prendre des vases qui représentent le rituel. Ces vases, vous savez, c'était des vases dont se servaient les sacrificateurs pour se laver les mains. Et quand toute l'assemblée était assemblée là dans le temple,
Il
prenait de l'eau, il se lavait les mains dans les vases là. Et c'était un signe de purification. C'était, voilà, maintenant je me lave les mains, je suis purifié, je vais pouvoir maintenant faire le service.
Et
tout ça c'était simplement un rituel. Et Jésus-Christ arrive là, il arrive à Cana, c'est la fête. Il arrive dans ce jour de fête. Et là, il manque du vin. Et Jésus voit dans un coin de la maison et des vases qui étaient en principe utilisés pour la purification des sacrificateurs. Et il manque du vin. Il aurait pu utiliser les vases vides dans lesquels il y avait du vin avant. Mais Jésus-Christ est là pour nous montrer quelque chose. C'est un signe. Il prend ce qui représente la purification et ce qui représente le jugement. Et il va le transformer en bénédiction. Il va prendre de l'eau qui représente le jugement. S'il y a eu un déluge, si la terre a été inondée par l'eau représente le jugement.
Et quand nous nous faisons baptiser par immersion dans les eaux du
baptême,
nous mourons à nous-mêmes et nous ressuscitons avec
Christ.
En fait, dans l'eau et dans le vin, dans ce fruit de la vigne, il y a l'eau et le fruit de la vigne, il y a le jugement, mais aussi le fruit qui vient après. Il y a le changement du rituel en une expérience. Et c'est pour cela que le septième jour, un petit peu plus loin, Jésus-Christ arrive le septième jour, le dernier jour de la fête. Il arrive là dans un temple. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ces mêmes pharisiens, ces mêmes sacrificateurs prendre de l'eau et se laver les mains dans ces vases. Et Jésus-Christ, là, il rentre encore une fois dans le temple. Il renverse plus les tables parce qu'il n'y a plus de table. Mais là, il voit encore du rituel. Il voit encore des choses traditionnelles. Et la Bible nous dit que non, il ne vient pas tout doucement voir là le souverain sacrificateur en disant s'il vous plaît, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux? Non, il arrive là, il se lève là dans le temple. Et la Bible dit que il s'est écrié. Il s'est écrié devant tout le temple. Si quelqu'un a soif, mais qu'il vienne après moi et qu'il me suive. Alléluia. Si quelqu'un a soif, parce que Jésus-Christ voyait là du rituel, il voyait là des vases qui étaient utilisés. Mais cette pensée-là, c'est que Jésus, lui, veut apporter une expérience. Il veut apporter quelque chose de nouveau. Alléluia. Là, si vous voulez vivre quelque chose de nouveau, vous devez oublier le passé et vous devez désirer, vous devez avoir cette vision du changement et vous devez laisser de côté tout ce qui est rituel et tradition dans votre vie. Et moi, je ne veux jamais rentrer dans quelque chose de religieux ici dans l'église, mais je veux vivre une expérience avec Jésus-Christ et je veux que cette expérience rencontre chacune des personnes. Moi, j'ai soif de voir un changement. Et j'ai soif de voir l'eau du jugement changer en vin, en fruit de bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Alléluia! On peut acclamer ce que le fait le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Jésus renverse les tables. Jésus veut changer l'eau en vin. Et remarquez que lorsque Jésus-Christ sort de ce temple où il a renversé les tables, ces pharisiens religieux lui demandent un signe. Il y a toujours ce mot « signe ». Montre-nous un signe. Et Jésus leur dira, et vous voyez qu'à chaque fois, on revient à ça. On revient au sacrifice de Jésus. Dis, moi, je ne vais pas vous montrer un autre signe que détruisez ce temple et moi, en 3 jours, je le rebâtis. Et bien sûr, les pharisiens n'ont rien compris. Mais regarde, comment tu peux dire qu'en 3 jours tu vas rebâtir ce temple? Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne parlait pas de ce temple là, que les envoyés, mais il parlait de son propre corps. Seigneur, il nous manque du vin. Mon heure n'est pas encore venue, Jésus répond. L'heure où je dois mourir et ressusciter n'est pas encore venue. Et finalement, il change l'eau en vin. Est-ce que tous les hommes et tous les chrétiens de la terre voient que, oh oui, c'est là le premier miracle, c'est de l'eau en vin, donc maintenant on peut boire du vin, aller à volonté, on peut
s'éliminer.
C'est pas ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est que ce fut là le premier signe, le premier miracle, le premier signe montrant ce que Jésus-Christ voulait faire dans la vie des gens. L'eau du jugement changée en fruit.
À un autre moment, on demandera, montre-nous encore un signe, Jésus. Et Jésus dira, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. Jonas a été mis 3 jours dans le poisson, puis il en est sorti. Et ça, ça représente aussi l'ensevelissement, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce matin? Est-ce que vous acceptez la parole ce matin? Est-ce que vous assimilez ce matin? Ce que Jésus veut faire, le changement que Jésus veut faire, et vous comprenez que le changement, la chose nouvelle, ne peut être autrement faite que par Jésus-Christ. Ça ne peut pas être fait autrement que par celui qui est mort pour nous et celui qui est ressuscité pour nous. Et moi, j'aimerais vous dire qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ. Personne ne peut faire ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Il est celui qui va changer l'eau en vin. Il est celui qui va changer ce qui est sec en quelque chose de bouillonnant, en des fleuves d'eau vive qui vont couler. Et quand Jésus-Christ a fait ça, alors bien sûr, l'ordinateur du repas est venu. Il a dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Il est venu voir le marié. Il dit, hey, en principe, on donne le bon vin au début. Et toi, t'es en train de donner le bon vin à la fin. Parce que maintenant, tout le monde est ivre. Et vous voyez là que le but du miracle, c'était pas le vin. Hein. Parce que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Pourquoi Jésus-Christ aurait encore fait du vin s'il était déjà ivre? Ça
n'a
pas de sens. Le premier miracle, là, ça n'a rien à voir avec le vin. Le premier miracle a à voir avec sa mort et sa résurrection. Est-ce qu'on peut applaudir ce que... Vraiment, je ne sais pas si vous saisissez. Hein? Et alors, parce que ce qui se passe dans ce mariage-là, et souvent dans les mariages, c'est qu'il y a, tout un processus. Et le processus, c'est bon vin. Après, c'est ivresse. Et puis après, c'est moins bon vin, parce qu'on ne voit pas la différence. Et je
ne
sais pas si vous avez déjà été ivre dans votre vie. Moi, quand j'étais jeune adolescent, il m'est arrivé d'être ivre. C'était même un sport dans le lycée là où on était. Et je n'étais pas chrétien, bien sûr. Hein. Et en fait, dans tout le processus de l'ivresse, il y a tout un processus de radotage. Frère Charles dit oui, il a dû faire l'expérience. La chose est celle-ci, c'est tu bois.
Tu bois
et puis après t'es gay, t'es content.
Et puis après
t'es en train de raconter les histoires du passé tout le temps.
Tu te souviens
de la fois que. Et puis souviens-toi de la fois que. Et puis tu te souviens aussi, c'est la phase de radotage. Où on ressasse tout le temps le passé, où on parle du passé. Et puis finalement, après on prend n'importe quoi et ça passe. Et puis finalement, après on n'en peut plus, on est comateux. C'est ça le processus. Et c'est souvent ça le processus dans la vie du chrétien. C'est une ivresse. C'est que je suis sauvé. Je suis touché. Je suis zélé pour Dieu. Je suis plein. Oh, je goûte ce vin nouveau, je goûte cette chose nouvelle.
Et
c'est bon pour moi.
Et
je suis plein de feu. Il y a comme une ivresse
spirituelle.
Et après, dans la vie de beaucoup de chrétiens religieux, ben c'est, on parle tout le temps après du passé. Ah, oh, tu te souviens de la fois que, tu te souviens de la fois que. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dites pas amen, je serai consolé. c'est ça qui se passe souvent dans la vie d'un chrétien. Après un refroidissement spirituel. Et puis vous savez quoi? Après on prend du moins bon vin. Une moins bonne vie de prière. Une louange plus petite. Un service moins bon. Une louange plus faible. Et puis on radote. Et puis on devient fragile. Et puis on devient insatisfait. Et puis tu te souviens de la fois que. Et les réveils d'avant. Et la vie d'avant. Non, il y a quelque chose de nouveau, Église. Amen. Moi, je suis là pour vous annoncer quelque chose de nouveau. Moi, j'ai une vision, j'ai un cœur pour cette ville, pour cette église. C'est de vivre de quelque chose qui était en eau, quelque chose qui va se transformer en fruit. Quelque chose qui était un jugement qui va se transformer en bénédiction. Oui, la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a été crucifié, lorsque la lance a percé son côté, de l'eau et du sang sont sortis de son côté. Alléluia! Moi, je veux voir ça dans ma vie. Je veux voir un changement dans ma vie. Non pas que je vais être crucifié, mais je veux voir l'eau changer. Amen, en fruit. Je veux vivre un changement. Je veux passer du rituel. Je veux passer de la tradition. Je veux passer des vases. Et vous comprenez ce que je parle dans, quand je parle de rituel. Non. C'est tous les dimanches qu'il faut prendre la Sainte Seine. Si tu prends pas la Sainte Seine tous les dimanches, c'est un sacrilège. C'est la réunion, c'est terminé. Non, il faut que tu portes un foulard. Si tu portes pas de foulard, c'est un sacrilège. Et on contraint les gens, on veut forcer les gens. Et en fait, on rentre dans des rituels. Que le rituel soit changé en quelque chose de bon. En un fruit. Avec un Jésus-Christ qui vient dans le cœur et qui transforme les vies. Alléluia! C'est ça que je veux voir. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, j'ai plein de choses à vous dire, je vous le dirai la prochaine fois. Et pour terminer, j'aimerais vous partager une petite histoire. Le Seigneur est en train de nous dire, moi j'ai quelque chose pour toi, quelque chose de nouveau. Il y avait un jour un couple. Un couple, vous savez, qui s'aimait tellement. Et puis au fil des années, il semblerait que cet amour s'est un petit peu flétri. Et puis l'épouse parle à son mari, il lui dit, écoute, est-ce que tu ne trouves pas qu'on s'est éloigné l'un de l'autre ces derniers temps? On est un peu plus distants l'un de l'autre. Et il faut qu'on change les choses. Et le mari a reçu ça et il s'est dit, c'est vrai, t'as raison. Et puis, quelques jours passent. Et un mardi soir, alors que cette épouse rentre du travail, Elle voit la nounou qui était là. Celle qui gardait les enfants pendant que les deux travaillaient.
Elle
dit, mais qu'est-ce que tu fais là?
Et puis
la nounou lui dit, je ne sais pas, c'est votre mari qui m'a demandé de venir.
Et puis
elle voit le mari. Et puis le mari lui dit, écoute,
Chérie, va préparer, je t'emmène au restaurant.
Գնա պատրաստի գնանք ռեստորան.
Va mettre ta plus belle robe.
Գնա մնագերացիկ զգես թաքիշ.
Alors, elle est toute heureuse.
Նա շատ ուրախ է.
Son cœur commence à battre.
Նա ասես սկսեց խփել.
Et puis elle s'en va, elle se met sa plus belle robe.
Գնա հազարթարվեց.
Et ils partent.
Եվ գնացին.
Ils partent au restaurant.
Գնացին ռեստորան.
Et là, ils vont dans un petit restaurant italien avec la petite bougie.
Italական ռեստորանում էին.
C'est très intime.
Շատ լավ տեղ է.
Et il y a la musique là qui
Et
puis ils se disent des mots d'amour, ils se
parlent.
Et ils parlent de nouvelles choses.
Et puis
à un moment, l'époux sort une petite carte.
Et puis
c'est sur cette petite carte qu'il a écrit un mot d'amour, mais vraiment un poème, quelque chose qui sort du cœur.
Vous
savez, je vous parle pas des cartes toutes faites là où tout est écrit, vous n'avez plus qu'à signer. Non, non. Bon, si vous avez fait ça, c'est bien. Hein, c'est... mais lui, il a mis quelque chose. Il a mis quelque chose.
Et
puis alors, elle est vraiment touchée.
Et
puis il y a quelques petites larmes qui coulent là dans ses yeux.
Et
puis elle est vraiment comblée.
Et
puis c'est pas fini.
Et
puis juste avant de partir,
il
sort une petite rose bleue. Une rose bleue. C'est la couleur préférée de sa femme.
Et
alors elle est vraiment touchée, elle craque.
Et
puis ils repartent là le soir. Et c'était vraiment une soirée magnifique.
Et puis
c'est vrai qu'il semblerait que les choses commencent à changer là. Les choses vraiment ont changé. Et puis finalement, les jours passent. Et le mardi suivant arrive. Elle rentre du travail. Elle voit la même nounou. Qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Votre mari m'a demandé de... Et le mari lui dit, bah écoute, je t'emmène au restaurant. Va mettre ta plus belle robe. Celle de la semaine dernière. Et puis, elle descend avec cette robe-là. Part au restaurant, dans le même restaurant.
Et
il commande le même repas. Et lui, il se parle de différentes choses, mais lui, il la ramène toujours au propos de la semaine dernière.
Et
puis, il lui offre une carte.
Et
elle se pose des questions là maintenant.
Hein.
Et puis, elle ouvre cette carte et c'est les mêmes paroles que la semaine dernière. Alors, elle commence à être troublée, elle commence à réfléchir un peu.
Et
puis, le repas passe et puis, il lui dit, attends, c'est pas fini. Et il sort. Une rose bleue. Et là, elle se pose vraiment des questions. Et puis, bon, elle est touchée, elle est quand même contente. Et puis, il rentre comme ça. Et puis, bon, et puis le soir, elle pense, elle réfléchit à ce qui s'est passé. Puis elle dit, bon, bah, c'était bien quand même. Puis le mardi suivant arrive. Et la nounou est encore là. Le mari lui dit, va, mets ta robe, celle de la semaine dernière. Et ils vont au restaurant. Dans le même restaurant. Et pendant ce restaurant, ils commandent le même repas. Et ils se disent les mêmes choses. Et il sort une carte. Avec les mêmes mots. Et lui sort une rose. La même rose. Et le mardi suivant. Et le mardi suivant. Et le dimanche suivant. Et cette femme regarde cette rose maintenant. Elle est couchée sur le bord de son lit. Elle regarde ses roses. Et elle commence à les détester. Elle commence à ne plus les aimer. Parce que le mardi suivant est devenu un rituel. Et le dimanche suivant. J'aimerais vous inviter à vous lever ce matin. J'aimerais qu'on puisse rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fermant nos yeux, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu sur notre vie spirituelle. Cette vie spirituelle qui est peut-être devenue un rituel dans ma vie. Une pratique religieuse. Quelque chose que je fais comme les autres. Une louange que je fais comme les autres. Et depuis ce jour où j'ai dit oui, comme quand les disciples ont suivi Jésus-Christ, peut-être que tu n'as rien vu de nouveau. Et le Seigneur est en train de t'appeler ce matin. Et moi je sais qu'il parle à ton cœur ce matin. En train de te dire, mon fils, ma fille, veux-tu quelque chose de nouveau? La désires-tu vraiment? J'ai pour toi un signe. Je vais changer ton eau en fruit. Je vais changer ce qui est jugement en quelque chose qui va être bon pour toi. Et pour que le dimanche suivant ne soit plus le même que le dimanche passé. Et pour que le rituel soit vraiment changé en quelque chose de merveilleux dans ta vie. Et que ta vie spirituelle, que ta vie avec Dieu soit quelque chose de vrai. Que tu puisses vivre une vie spirituelle puissante. Quelque chose de vrai, quelque chose de bon. Le Seigneur nous dit, oh, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine, de rite. Et Jésus prend, et Jésus veut prendre les vases qui représentent ces vases de sacrificateurs, ces vases qui représentent le rituel. Il veut mettre maintenant sa puissance là-dedans. Et la Bible nous dit, et vous le savez, que vous êtes des vases. Et peut-être que...
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.